6h25 minutes. Bon début de semaine, bon lundi. Vous êtes comme toujours bien branchés à Boulevard 102.1. Reg Against le matin jusqu'à 10h. Reg, Louis Mathieu et Max avec vous pour la semaine. Jeu de chaise musicale pour ce qui est de Reg Against le matin cette semaine. Max va porter le chapeau de sport à Jeff. Il a juste pas faire les sports, là, mais juste dans le sens que Jeff est plus là. J'allais dire que Louis Mathieu va fermer son Tinder, mais il est en couple. Fait que, bref, ouais, tout ça pour vous dire. Max va être Jeff. Louis Mathieu va être Max. Je serai moi. Et c'est ce qu'on va faire pour là. Parce que là, ça commencerait à être ben trop compliqué. Et on passe la semaine comme ça. Donc, je voulais en venir à... Louis Mathieu va s'occuper des news. Qu'est-ce qu'on surveille ce matin dans l'actualité?
Incendie dans un 6 logements. Plusieurs familles devront se relocaliser. On parlait de Luc tantôt qui a subi un incendie. C'est peut-être celui-là, je ne suis pas certain. On parle d'une trentaine de personnes qui devront se reloger après qu'un incendie se soit déclenché dans un immeuble à logement dans Sainte-Anne-de-Beaupré hier. Aucun blessé parmi les occupants. Par contre, l'immeuble a subi trop de dégâts pour qu'ils puissent réintégrer leur appartement. Selon le chef de la brigade des pompiers de Sainte-Anne-de-Beaupré, René Morel, l'incendie serait d'origine électrique. Sinon, dans une...
Dire, Luc, si c'est, est-ce que c'est l'incendie? C'est-tu dans ton coin? C'est-tu ton bloc appartement? As-tu pu retrouver ton appartement ou faut que tu habites ailleurs? 88-971-101.
Bernard Drainville s'est confié sur la réforme de l'enseignement du français. Il a expliqué à la presse qu'il a comme objectif d'améliorer le taux de réussite et d'accrocher les élèves à la culture québécoise. Il nomme 7 points majeurs de sa réforme. On y trouve entre autres des réflexions sur les types de calligraphie qu'on devrait enseigner. On demande à des experts pour savoir si l'orthographe rectifiée gagne à être enseignée. Et dans la même optique de vouloir accrocher les élèves à la culture québécoise, il veut la faire connaître non seulement par sa littérature, mais aussi par ses chansons, son théâtre, son cinéma. Le professeur de didactique du français à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, Martin Lépine, a proposé à Bernard Drainville de signer un pacte entre l'école, les familles et les élèves. Un pacte pour plaisir, accès, choix, temps et espace, 5 thèmes qui seraient dominants dans le nouveau programme.
Quand on regarde les taux de réussite, puis c'est rapporté dans la presse, l'écart est impressionnant entre le public et le privé pour ce qui est de l'épreuve unique de français au 5e secondaire. Quand on retourne avant la pandémie, 2019, taux de réussite au privé, c'était 88%, seulement 76% pour ce qui est du public. Après la pandémie, évidemment, ça a baissé. Tranquillement, on est en train de remonter, mais pour ce qui est du privé, on était à 81,6%, 66,1% seulement pour ce qui est du public. 2023, 86,8% pour le privé, 71,1% seulement pour le public. Fait que comme dans bien des matières, le privé qui a un solide avantage. Puis quand la presse va vraiment dans les résultats plus détaillés, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un élève sur deux dans les écoles publiques qui a échoué l'année passée dans ce qui est de l'orthographe et la grammaire, parce qu'il y a, l'examen en général que tu peux passer, mais il y a aussi les catégories différentes. Puis quand on va dans orthographe et grammaire, c'est pas facile.
Ouais, c'est
fait quand on dit que c'est peut-être le temps de regarder ce qu'on peut faire pour la réforme de l'enseignement du français, on est en train d'y travailler. Puis dès 2025, on va commencer à l'essayer dans certaines écoles.
C'est peut-être une pensée utopique, puis c'est peut-être simpliste, mais je pense que pour accrocher les jeunes, peu importe la matière, à l'école... puis on parle de ça avec Luc Paquette, le directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne, souvent, là, par la bande. Pour accrocher les jeunes... peu importe la matière, en 2024, il faut que ça soit intéressant et le fun. Il faut repenser qu'est-ce qu'on enseigne. Puis je fais un parallèle peut-être un petit peu boiteux, mais en même temps, vous allez comprendre. Dans les années 90, je travaillais beaucoup dans les camps d'été, puis j'ai travaillé un été, un genre de 3-4 mois, dans l'Ouest canadien. Un camp d'immersion, tu sais, un camp qui était en français pour les jeunes de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, mais en français. Parce que ce que les parents voulaient faire avec leurs enfants, c'est un camp familial quand même, c'est de faire des activités le fun, mais en français. Pour pas que ça soit juste, pour alimenter, allumer cette passion-là pour la langue française, puis que ça soit pas juste quelque chose qui est sur les bancs d'école. Puis habituellement, ce qui se passait dans l'Ouest canadien, en tout cas dans les années 90, c'est que le jeune qui est en immersion française ou dans une école francophone, l'été, va parler en anglais avec tout le monde dans son entourage.
Ouais.
Le monde de ses équipes sportives, tout ça. Fait que c'était de montrer que tu peux faire de l'escalade, du kayak, des jeux, jouer au baseball. Tu sais, t'amuser pendant une semaine, deux semaines en français pour aller les accrocher. Je me dis, t'as pas changé là, quand même. Là. À quelque part, il faut que tu ailles piquer la curiosité, il faut que tu ailles accrocher le jeune, que ce soit de la maths, de l'histoire, du français, de la géo. Il faut trouver une façon quand même de les accrocher avant de leur pitcher toute cette matière-là. En tout cas, je trouve que c'est ça qu'on doit absolument. Puis c'est-tu dans les matières, c'est-tu de parler plus justement des artistes d'ici, de l'histoire d'ici, dans le français, la culture d'ici, la musique d'ici, le cinéma d'ici, la télévision... Peut-être, mais c'est peut-être une façon de les accrocher.
Ça va être d'éloigner un petit peu le gavage, justement, de l'enseignement.
Ouais.
Deux biologistes qui ont défendu publiquement le caribou forestier ont oublié de préciser qu'ils travaillaient aussi pour l'industrie forestière. Pour vous remettre en contexte, là, Gaston Derry et Jacques Prescott sont deux hommes considérés comme des défenseurs québécois de la biodiversité et du développement durable dans le monde scientifique. Ce sont des sommités dans leur domaine. Et ces deux hommes-là ont co-signé ensemble des lettres publiques qui mettent en cause le réchauffement climatique en ce qui concerne la problématique du caribou forestier. Par contre, ce qu'on apprend grâce à Radio-Canada, c'est que les deux biologistes travaillent main dans la main avec Boisaco. Boisaco, je sais pas comment... J'ai pas vérifié comment le dire. C'est peut-être pas la bonne...
Prononciation,
c'est le mot. C'est une entreprise qui œuvre dans l'industrie forestière. Donc, en résumé, les biologistes qui blâmaient le réchauffement climatique pour tout ce qui se passe avec le caribou forestier. Mais on apprend qu'ils ne sont pas très neutres puisqu'ils travaillent avec une entreprise qui fait son argent en exploitant le bois. Eux-mêmes ont admis, et je cite, qu'il y avait apparence de conflit d'intérêts. Et c'est finalement leur réputation qui en prend un coup, mais aussi les caribous forestiers, parce que la communauté scientifique reste d'avis que le plus gros problème présentement, c'est l'industrie forestière. Dans une autre ordre d'idée, le gouvernement du Québec, une nouvelle politique équilibrée en ce qui concerne le financement des universités québécoises. TVA Nouvelle l'a appris en primeur. La prochaine politique s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre et à la baisse de diplomation québécoise. Et grâce au nouveau plan, les universités recevront dès le départ 8,5 millions de dollars en plus pour le financement inconditionnel. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, on s'assure d'une meilleure prévisibilité et une meilleure stabilité avec cette mesure-là. Désormais, les universités recevront 700 $ par étudiant inscrit, 5 000 par diplôme en études supérieures spécialisées, 9 000 pour un bac ou une maîtrise dans les domaines prioritaires comme l'enseignement, par exemple, et finalement 10 000 $ pour un doctorat. Le ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge, appuie l'idée des frais de scolarité pour les étudiants canadiens à 12 000 $ et 20 000 $ pour les étudiants étrangers. Tout ça dans le but de rééquilibrer l'équilibre linguistique. Montréalais qui a été brisé, explique-t-il.
J'ai hâte d'avoir les réactions sur cette nouvelle-là parce que, oui, on retravaille la façon de donner l'argent aux universités, notamment en leur donnant plus d'argent qui est garanti puis qu'il n'y a pas nécessairement de conditions, mais il n'y a pas de nouvel argent qui est investi. Bon, certains vont dire ben c'est ça qu'on devrait faire partout, juste mieux gérer l'argent puis pas toujours en mettre plus. Mais quand même, je pense que les universités avaient certaines demandes en termes d'argent, puis là, de ne pas en avoir davantage. Pas sûr que ça va nécessairement faire l'affaire de tout le monde.
Louis-Mathieu, juste pour revenir, parce qu'on a eu quelques textos à ce sujet-là, tu le prononçais bien, le Boisaco.
Boisaco, ouais. Yes. Merci beaucoup. 90 millions de $ pour rénover le bureau vide de la SAAC. Présentement, la majorité des employés de la Société de l'assurance automobile du Québec est en mode travail hybride, donc 3 jours en télétravail pour 2 au bureau. Et dans l'objectif de rendre plus attractif le bureau, la SAAC a déposé un appel d'offres pour un projet de rénovation du siège social qui coûterait 89,7 millions de $ selon le porte-parole de la SAAC, Gino Desrosiers. On nous rassure quand même en spécifiant qu'on n'aura pas besoin de contribuer à payer les rénovations et le projet prévoit de libérer des locaux pour pouvoir louer à des organismes gouvernementaux. On pense recevoir 98 millions de $ sur 25 ans avec la location des locaux.
Un texte intéressant, ça, de notre ami Marc Allard dans Le Soleil. Puis c'est ça, quand on voit l'investissement, on se dit, ouais, on va-tu mettre vraiment autant d'argent pour rendre les petits locaux plus beaux quand il n'y a quasiment plus personne qui travaille dedans? Mais c'est quand même un point qui est important, là, tu le mentionnais, la location des locaux, de ce qu'on va pouvoir améliorer, ben ça va nous ramener sur 25 ans plus d'argent que ce qu'on va investir.
Le projet des mini-maisons pour les personnes en situation d'itinérance est très bien reçu à Québec. C'est Bruno Marchand qui a proposé ce projet pilote-là et ça pourrait offrir à ceux qui vivent dans la rue un endroit pour se réchauffer, profiter d'un accès à l'eau, à l'électricité ou au système d'égout. Présentement, le CIUS de la Capitale-Nationale travaille avec des organismes de Beauport pour déterminer les endroits où on va pouvoir trouver ces mini-maisons-là. Pour le moment, autant la ville que les organismes, que les citoyens, tout le monde est content du projet qui est en cours de développement, mais les acteurs du milieu rappellent quand même que ce sera important de garder un encadrement par la suite sur le terrain.
Absolument. C'est une belle initiative, on le sait. Là, personne ne va dire le contraire. Il faut que ce soit bien organisé, placé au bon endroit ou aux bons endroits en ville, mais on ne sera jamais contre avoir plus d'endroits couverts, au chaud, pour nos co-citoyens en situation d'itinérance.
Samedi avait lieu une marche de mobilisation pour soutenir les employés de bibliothèque. Depuis le 1er mars, les employés de bibliothèque sont en grève et en fin de semaine, une centaine de citoyens se sont mobilisés pour appuyer leur cause. Les grévistes se sont fait encourager par la chef de Transition Québec et la conseillère municipale de Limoilou, Jackie Smith, qui a d'ailleurs elle aussi participé à la marche vers la bibliothèque Gabrielle Roy, alors que le départ s'est fait à Limoilou, à la bibliothèque Saint-Charles. On se rappelle que de pourquoi les employés se battent présentement, c'est pour un salaire plus décent. Le problème est que l'employeur reçoit son financement de la ville, donc sans libération de fonds, l'employeur se retrouve un peu coincé avec le problème. On attend avec impatience la quatrième offre de l'employeur qui sera aussi son offre finale. Elle sera déposée vendredi.
Et ça fait déjà 3 mois que les employés de bibliothèque à Québec sont en grève. Ça fait qu'il y a seulement 3 bibliothèques qui sont ouvertes là, à horaires réduits. Pas l'idéal à l'approche de l'été. Il y en a qui craignent, je pense que c'est Claude Villeneuve qui avait un peu cette crainte-là de dire « OK, mais là, quand on va être rendu fin juin, on va-tu laisser tomber ça puis dire « Ouais, ben on va fonctionner à 3 tout au long de l'été. » Bruno Marchand dit que c'est pas comme ça que ça va fonctionner, mais quand même, il y a des craintes à y avoir.
Absolument. Puis je l'ai dit la semaine dernière, on en parlait avec Jeff. Je comprends pas comment cette situation-là n'est pas réglée encore, mais bref, à suivre en souhaitant qu'on va régler la situation et les négociations syndicales entre la ville et les employés des bibliothèques bientôt. Courte pause à Rage Against le matin. On revient tout de suite après et on va avoir de la belle visite en studio. Le chum d'Alaire va débarquer. Il était dans mon ancien hood à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour le repêchage de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Son gars était éligible et disponible pour se faire repêcher. Ça s'est passé comment, cette expérience-là? Tout ça et bien plus après la pause. Bougez pas.